Bonjour à tous et bienvenue sur le 134e Comics Weekly. Cette semaine, beaucoup de Marvel, c'est la Uncanny Week, avec entre autres Uncanny X-Men, Uncanny X-Force et Uncanny Avengers. Nous parlerons aussi de la grosse sortie de la semaine, c'est le Guardians of the Galaxy 0.1. Du côté de l'indé, d'autres petites sorties avec la suite de Rocketeer dans une nouvelle mini-série, ou encore Five Weapons chez Image. Et enfin, chez DC, l'événement de la semaine, le Batman Incorporated numéro 8. On parlera aussi de Red Lanterns ou de Aquaman. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine, Nono.
Eh oui, bonjour les enfants.
Mister René Bunny.
Bonsoir à toutes et tous.
Corwin.
Bonjour.
Et Bruno.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Tu l'as fait moins étudié que d'habitude, quand même.
Oui, c'est vrai.
Non, mais c'est Bunny, à chaque fois, il veut me prendre ma phrase.
Non, moi, j'ai dit bonsoir. Toi, t'as dit bonjour.
Ouais, bah, je sais, j'étais obligé de changer.
Allez, on commence avec la partie Marvel. Grosse partie cette semaine. On a énormément de titres. Et on démarre avec le Guardians of the Galaxy. Nouvelle série Guardians of the Galaxy. Écrite cette fois-ci par Brian Michael Bendis. Ça nous change de Dan Abnett et Andy Lanning. Dessinée par Steve McNiven, ancrée par John Bell. C'est un numéro 0.1, donc ce n'est pas le vrai premier numéro de la série. C'est pour ça que dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la jeunesse et aux origines de... j'ai oublié son nom, ça commence bien.
Peter Quill, merci.
Oh bah bravo, ça, superbe émission, magnifique. On va le voir jeune et on va surtout voir qui est son père et comment il a été conçu. Son père est un extraterrestre. Il s'est échoué sur Terre en essayant d'échapper à des poursuivants. Il s'est écrasé au fin fond des Rocky Mountains, en plein milieu d'une ferme avec une fille un petit peu toute seule, loin de tout.
Un petit peu barge aussi. Hein.
Bon, elle est pas barge. Hein.
Elle a juste un fusil chez elle.
Oui, mais ça, c'est comme tous les Américains qui vivent au fin fond de la campagne.
C'est une Américaine, hein.
Truc classique.
Un bon ça me fait penser à la meuf qu'il y avait dans le film avec Bruce Willis, là.
Exactement, oui.
Looper.
Avec, voilà. Ouais.
Qui vivait au milieu des champs.
Tout à fait. Je pense exactement la même chose.
Elle a un petit côté redneck, hein, même si c'est les Rocky Mountains. Et donc, son vaisseau est complètement cassé. Il faut qu'il le répare. Il va donc habiter chez cette meuf de façon un petit peu forcée, hein, mais finalement, les choses se passent bien. Et on va dire qu'une chose en entraîne une autre. Le printemps est revenu et ça a bourgeonné.
Je se la taper.
Les jupes raccourcissent.
Voilà. Moi, j'avais essayé d'être poète. Bruno, il y va carrément bien dedans, quoi.
Comme
le père de Peter Quill. C'est tellement facile. Du coup, il repart et on voit le jeune Peter Quill qui se fait détruire. Alors, c'est des choses qu'on avait déjà vues dans dans le Marvel Point One, pardon, sorti il y a de ça quelques mois, qui nous présentait tout le Marvel Now. On a ces pages qui sont remises, c'est 8 pages. L'épisode est un peu plus gros, il fait 28 pages. Donc, Marvel nous le vend comme un extra size issue. Ça me fait toujours rire quand on a 8 pages de plus et qu'on nous dit que c'est un extra size issue. Bon, je sais pas, c'est plutôt du 40 ou 50 pages extra size, mais bon.
Faut justifier. Hein.
C'est un très bon 0.1. C'est très bien écrit. Il y a un petit peu d'humour. Il y a des dessins qui sont vraiment très sympathiques de Steve McNiven.
Sublime.
C'est vraiment très beau. Franchement, ça fait vraiment, ça remplit énormément son office de 0.1. Enfin, déjà de 0.1, de numéro 0 aussi. À la fin de l'épisode, on découvre la composition très rapidement de l'équipe sans nous préciser qui est qui. Je pense que Brian Michael Bendis nous réserve ça pour le numéro 1.
Bah, je pense que le petit raton laveur, c'est Tony Stark, non?
Même si, de toute façon, il avait déjà présenté l'équipe dans Avengers Assemble, quand il avait fait son arc sur Thanos et compagnie. Donc franchement, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon épisode. Pour moi, c'est un coup de cœur, en tout cas. Même si ça me fait un peu mal au cul de le dire. C'est un coup de cœur, ce qui est bien écrit. Je peux pas nier que le truc est vraiment bien foutu, quoi. Bunny, tu l'as lu toi aussi?
Oui, ben justement, moi j'ai une question à te poser quand même. C'est qu'est-ce qui t'a fait changer autant d'avis entre le point one qui quand même révélait pas mal de cette histoire et maintenant? Parce que t'étais assez dubitatif quand t'as lu le point one et maintenant tu trouves que c'est vraiment pas mal. Ben pourtant, il n'y a pas grand-chose de plus.
Mais déjà, l'histoire. J'étais pas persuadé qu'il fallait redire l'origine de Peter Quill. Dan Abnett et Andy Lanning ne sont pas embarrassés de ça du tout, de rendre leur run, et ça fonctionnait très bien. Maintenant, ouais, j'ai pris le numéro tel qu'il est, c'est-à-dire un 0.1, c'est un numéro d'introduction, et en termes de numéro d'introduction, ça fonctionne parfaitement.
Et si je peux rajouter quelque chose par rapport au Point One, en fait, le fait d'avoir d'avoir un peu plus de substance par rapport à la mère de Peter Quill, ça rend ce qui lui arrive beaucoup plus touchant et tragique, alors que dans le Point One, c'était un peu expédié, et, on s'en foutait un peu qu'elle crève, quoi.
Complètement.
Et là, ils ont fait en sorte que le personnage devienne plus sympathique, intéressant, et du coup, ça a beaucoup plus d'impact.
Ça aurait presque été plus marrant qu'elle reste en vie et qu'elle discute avec Peter dans son casque en disant mais vas-y, fais ci, fais ça, et que lui fait mais maman, laisse-moi tranquille, quoi. On aurait pu voir une petite relation comme ça aurait pu être assez intéressant. L'équivalent alors de ce que là, Nova avec le World Mind à l'époque, quoi.
Ouais, ça aurait peut-être fait un petit peu doublon, je veux dire, avec Nova, justement, s'il a un petit peu ce côté-là.
Bah, on verra si le Nova de Jeff Loeb a le World Mind qui lui parle dans son casque aussi, comme avait Richard Rider. À l'époque, Richard Rider était tout seul, donc c'est pour ça. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de Nova qui sont revenus, rappelez-vous, à la fin du run d'Abnett et Lanning, le Nova Corps était refondé. Donc, est-ce que le World Mind sera dans le casque de Sam Alexander? J'en suis pas certain, par contre.
Bon. On verra, mais en tout cas pour revenir sur cet épisode, j'ai trouvé ça sympathique, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'était vraiment extraordinaire, puisque j'ai trouvé ça pas mal cliché. Bah, par exemple, on se dit forcément le mec va tomber sur une nana qui habite toute seule et qui est plutôt à son goût. Il aurait pu tomber sur un gros bûcheron, bon, ça aurait été.
Ça aurait peut-être donné une note à un autre Peter Quill. Hein.
Peter Quill avec une chemise canadienne.
C'est un extraterrestre, hein. Si ça se trouve, dans les canons de beauté pour cet extraterrestre sont pas les mêmes, hein, que nous.
Ça aurait pu être tout à fait différent et beaucoup moins glamour. Il y a quand même énormément, voilà, de clichés. Le gamin qui est la grosse tête, la grosse brute dans la cour d'école. Et il va défendre une nana, enfin, qui se fait agresser.
Tu sais, c'est cliché, mais c'est pas si cliché que ça. C'est des situations d'un petit peu de tous les jours, quoi.
Au fait, le truc, c'est vraiment, ça m'a donné l'impression de voir un film. Alors, au cinéma, si Les Gardiens de la Galaxie, c'est ça, effectivement, ce sera vachement bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette ambiance. Mais par contre, sur papier, bon, c'est déjà du vu très revu, quoi. C'était sympa, sans plus. En plus, je trouve que effectivement, ça a pas apporté grand chose par rapport à ce qu'on avait déjà vu dans le Point One.
Ouais, bon. Vu. Moi, je l'avais pas vu. Hein. Donc, moi, je trouvais ça plutôt cool. Hein.
Bah, t'avais lu le Point One.
Ouais, mais je trouve qu'on a quand même pas mal de choses en plus et tout.
Ouais.
Moi, j'avais lu aussi le Point One. Je connaissais pas du tout l'univers des Gardiens. Et comme l'a dit Steve, ça remplit très bien son office. Voilà, quoi. Moi, maintenant, j'ai des points de repère. Vois à peu près qui est Peter Quill et d'où il vient. C'est peut-être des trucs tout bêtes, c'est un peu cliché comme tu disais Bunny, mais au niveau de l'écriture, ça fonctionne bien, ça passe bien, et c'est agréable à lire et à découvrir. Et surtout que les dessins renforcent le côté agréable, parce qu'ils sont, à mon sens, juste magnifiques, quoi.
C'est exactement pour ça que j'en ai fait mon coup de cœur cette semaine, c'est parce que ça remplit vraiment son office de bon numéro d'introduction. L'histoire, j'étais pas forcément emballé d'une nouvelle mouture, surtout écrite par Brian Michael Bendis. En plus, il faut quand même préciser qu'il a cette fois-ci pas du tout joué avec son écriture de dialogue classique à faire c'est vrai, non, c'est pas vrai, mais si c'est vrai, mais non, c'est pas vrai. Il y a pas du tout de ça dans cet épisode, et ça aussi rend la lecture vraiment super agréable. Moi, le seul point qui me gêne un tout petit peu, c'est hors du comique, hein. Ça fait partie de ces pages de lettres que l'on a à la fin. Là, comme c'est un premier numéro, on a surtout un mot de l'éditeur et il nous reparle vite fait de toutes les occurrences des Gardiens de la Galaxie à travers les années. Ce qui me gêne, c'est que ce relaunch est vraiment dans le but de préparer les gens pour aller voir Guardians of the Galaxy au cinéma.
Ah, mais clairement.
Totalement.
Mais clairement. Ça se sent à la lecture, de toute façon.
Et moi, c'est le seul truc qui me gêne, c'est qu'on va pas faire une histoire pour faire une bonne histoire, on va faire une histoire pour préparer les gens à aller voir au cinéma pour faire plus de gens qui vont y aller, quoi. Même si, de toute façon, les fans de comics ne sont pas du tout la cible à essayer de convaincre. Je sais pas. Nono, toi, tu l'as lu aussi.
Ouais, et pour moi, ben, comme toi, hein, c'est un de mes coups de cœur de la semaine. J'ai trouvé l'histoire très intéressante. J'avais suivi le run d'Andy Lanning et de Dan Abnett quand c'était sorti dans les Marvel Universe en VF chez Panini. J'aimais beaucoup cette équipe, donc je la connais relativement bien. Et là, avoir justement les origines de Peter Quill, bah, c'est hyper intéressant. Même si ça reste assez classique comme origine, ça, ça me rappelle il y avait un vieux film des années 90 je crois où c'était cette histoire là d'un extraterrestre qui tombait dans un champ à côté d'une nana et forcément il se tapait la nana. Voilà, ça m'a
rappelé. Ça s'appelait pas Superman?
Non. Non, il me semble pas que bébé Clark Kent se tape McKent. Hein.
Dans les nouvelles origines. Voilà, tu serais surpris.
C'est pas Starman? Ouais.
Si, je crois que c'est Starman le film. T'as raison, Bruno. Je crois que c'est ça. Et voilà. Le seul petit point qui me dérange, c'est la présence de Tony Stark dans Les Gardiens de la Galaxie.
Ah oui, ça.
C'est le seul truc. J'attends de voir ce qu'il va apporter à l'équipe, parce que l'équipe en elle-même tourne déjà très bien depuis plusieurs années. T'es con. voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va apporter?
Ah bah, je te le dis tout de suite, hein. Ce qu'il va apporter dans l'équipe, c'est que du coup, il y a deux terriens dans l'équipe. Et donc, du coup, la Terre sera encore plus au centre des préoccupations des gardiens, puisque chaque membre vient de planètes totalement différentes. Il n'y en a pas, il n'y a pas deux personnes qui viennent de la même planète. Ce qui fait que du coup, on met la Terre au centre des choses. Et c'est peut-être ce qui risque de pêcher dans la série par la suite.
Ouais. Non, je pense que tout simplement ce que ça va rapporter par rapport à l'équipe, c'est un lien avec les films Marvel, tout simplement, puisque c'est l'un des personnages principaux des films, Tony Stark, Iron Man. Donc voilà, fallait le mettre absolument dans l'une de ces séries.
Oui, puis t'as le lien. Pardon, Corwin, excuse-moi, je te coupe.
J'allais dire, je pense un peu comme Bonnie, que ça fait un petit peu un rappel au fil rouge qu'on avait dans les scènes post-génériques de la première vague de films Marvel.
Sur les Avengers, après, justement. Je veux pas faire mon troll, mais je trouve que Iron Man est mieux écrit sur cette page-là que dans les 6 numéros de Kieron Gillen. Quoi.
C'est pas dur.
Attends, mais il dit rien. Il dit quoi? Il dit quoi sur cette
page?
Justement. Justement.
C'est tout. Non, il y a aussi le fait que, rappelez-vous, cette série Guardians of the Galaxy doit lancer le prochain gros event. Enfin, en tout cas, doit y être mêlé. Et donc, écrit par Brian Michael Bendis et avec Iron Man, on a encore plus de racines terriennes. Forcément, voilà, c'est juste pour ça, à mon avis. Hein.
Ouais. Mais c'est, voilà, pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est Guardians of the Galaxy est un de mes coups de cœur cette semaine.
Pareil pour moi. Je crois que de l'avis général, un bail. Peut-être
bye.
Pas Benny.
Moi, un bail.
Si, un bail, mais pas un coup de cœur, un bail, quoi.
Ah voilà, bye pour ce 0.1 finalement, un univers cosmique qui me faisait en tout cas pour moi très 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 peur au vu des scénaristes qui le reprenaient et où je suis bien surpris et je suis très content de reconnaître que je me suis trompé à l'avance. On continue toujours du Brian Michael Bendis, cette fois-ci on commence la Uncanny Week avec le Uncanny X-Men numéro 2, Corwin.
Oui, donc comme tu l'as dit au scénario, Brian Michael Bendis et au dessin et aux couleurs, Chris Bacalo. Donc c'est la suite directe de l'épisode 1. On commence par une petite scène où Emma Frost fait un peu une introspection depuis qu'elle a ses pouvoirs qui ont été chamboulés par le Phénix. Et puis là, c'est un épisode qui est centré vraiment principalement sur l'école de Cyclope, comment il l'avait appelé, la nouvelle école de Charles Xavier, je crois. Où ils font un peu découvrir les lieux aux élèves, ils leur expliquent pourquoi ils se battent, etc., etc. Et ils partent, au bout d'un moment, ils vont partir en mission. Et comme on l'a vu dans le numéro précédent, Magneto était un traître à la solde du Shield, et donc il va commencer aussi à faire son travail de top. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'histoire. C'est pas mal amené, ça c'est un épisode un peu plus posé pour vraiment planter le décor. Moi je sentais bien que c'était pour essayer d'avoir une deuxième série avec une école pour faire un peu contrepoids avec la série Wolverine and the X-Men. Et bon, pourquoi pas. Voilà, sinon, et puis là, surprise, les dessins de Chris Bacalo, j'arrive à les supporter.
C'est vrai que sur cet épisode, moi je suis d'accord avec toi, il a de très bonne case, pourtant je suis vraiment pas un grand fan du monsieur, hein, je le répète assez souvent. Mais là, c'est au niveau dynamisme, c'est vraiment, vraiment cool. Et on a cette page de présentation de l'école avec le diagramme de comment est répartie la base. Et c'est un truc qui était très classique dans les années 70-80 de le faire. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. Et ça m'a fait super plaisir de voir une page comme ça où on nous présente le hangar, le mess, etc. Ça apporte peut-être pas grand chose, mais ça parle aux nostalgiques que je suis, quoi.
Ouais, pareil, ça.
Ça m'a fait penser à la base de Babidi dans DBZ. C'est exactement
ça.
Les références.
Non, non, mais sans déconner, c'est exactement ça. Bah, en même temps, c'est une référence un peu geek et un petit peu de bande dessinée, donc pourquoi pas. Mais ouais, moi, je serais un peu plus mitigé que vous sur cet épisode. C'est les dessins, bon, alors Chris Bacalo, j'aime beaucoup ça, son Emma Frost, mais alors par contre, la tête de Scott Summers, je peux pas. Mais ouais, sur l'épisode, j'ai trouvé un petit peu, bah, déjà, j'ai trouvé bien longuée la première scène de discussion. Je trouvais ça limite chiant. Ensuite, les nouveaux élèves.
Benny, il aime Bendis, mais quand ça va vite, quoi.
ouais, enfin, je sais pas. C'est, faut que ce soit rythmé, faut que ce soit péchu. Et là, là, vraiment, je me suis ennuyé sur ce dialogue. J'ai trouvé que c'était Bendis dans ses vieux travers. Ensuite, les élèves de la.
Au contraire, les vieux travers, il les a que quand il y a les élèves, les gamins qui parlent, quoi. Tous les gamins chez Bendis parlent avec ce langage qu'il utilise tout le temps à répéter toutes les trois mêmes mots pendant 5 bulles, quoi.
Il y a de la répétition là dans les dialogues de d'Emma Frost et Cyclope.
Assez
j'ai trouvé
peu,
ça
je
très
trouve.
Lourd.
Assez peu.
Ouais, ça
moi, j'ai vraiment trouvé ça lourd. Ensuite, les élèves de l'école de Cyclope, justement, je les trouve inintéressants au possible. Franchement, pour le moment, il n'a pas réussi à m'y intéresser. Et en fin de compte, le cliffhanger, en plus, est super téléphoné, déjà vu 50 000 fois. Donc franchement, pour moi, cet épisode, c'est un gros plantage par rapport au premier qui était génial. Et ce sera juste un check-it.
Qui d'autre l'a lu ?
Moi.
Bah vas-y Nono, je t'en prie.
Bah pour moi c'est mon gros coup de cœur de la semaine celui-ci. Clairement j'ai lu les deux premiers, bah les deux numéros, le 1 et le 2 d'affilée parce que je les ai récupérés hier chez Astro City et donc j'ai pu les enchaîner directement et j'ai trouvé le deuxième bien meilleur que le premier et enfin j'arrive à apprécier comme vous disiez tout à l'heure du Bacalo. C'est-à-dire que pendant tout son run sur Wolverine and the X-Men, c'était le seul truc qui me dérangeait dans ce titre. Et là, je le trouve vraiment très bon sur cette série. Donc voilà, le fait de s'intéresser à Cyclope et tout le côté de Magneto qui est un traître, voilà, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je vais vraiment continuer à lire cette série. Pour moi, c'est un bail.
Je l'ai lu aussi, et franchement, ce que j'ai apprécié dans cet épisode, c'est que c'est un épisode de Powers, en fait. Bendis a écrit autant de dialogues dans cet épisode d'Uncanny X-Men qu'il en écrit dans un épisode de Powers.
C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Hein.
Et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir lire du Bendis, et pas de me lire 4 numéros pour me dire « Tiens, j'ai lu du Bendis ». Là, au moins, on prend le temps, celui-ci, il se lit vraiment, on met du temps à le lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. L'histoire est vraiment sympathique. Bon, voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé... Il y a juste ce cliffhanger, j'irai pas jusqu'à dire comme toi, Benny, où c'est téléphoné, où, en un sens, oui, mais de toute façon, on voyait pas comment une autre situation possible. Ce qui me gêne, c'est juste le choix de l'équipe qui intervient. Je trouve que c'est vraiment bête de faire intervenir cette équipe-là, il aurait peut-être mieux valu faire intervenir les Uncanny Avengers, qui sont le pont entre deux mondes, et ça aurait eu beaucoup plus de sens de les opposer aux Uncanny X-Men.
Ça aurait été beaucoup plus intéressant aussi par rapport aux frères Summers, justement.
Exactement, voilà. Ouais. Et là, il y avait un pont, justement, pour contrôler des mutants, envoyons une équipe qui est à moitié Avenger et à moitié mutant. Parce que là, on a l'impression qu'il va nous refaire AVX, quoi.
Ouais, mais là, c'est Bendis qui est pas content, parce que c'est pas lui qui a écrit Uncanny Avengers.
Et ça, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, cette équipe, je n'arrive même pas à savoir quelle équipe d'Avengers c'est, exactement, honnêtement.
C'est assemblée.
C'est l'équipe classique, hein, tu vois.
Ouais, c'est l'équipe d'Avengers Assemble, ouais, effectivement.
C'est les Avengers Assemble.
Ouais, ouais. Voilà, c'est l'équipe cinématographique.
Ouais, avec Captain Marvel en plus.
Ouais.
Bon, bah voilà, moi je trouve que c'est un bon épisode. Pour moi, ce sera un bail, quoi.
Pour moi, c'est un bail aussi.
Bon, ah, Nono, oui. Toi, c'est ton coup de cœur. Et Benny, ouais. Tu l'as dit, check it.
Ouais, check it, simplement. Pour moi, il n'y a pas d'histoire.
C'est marrant parce que quand il y a des dialogues, Benny n'aime pas le Bendis en général.
Non, mais il y a des dialogues, mais il n'y a pas d'histoire. Ça n'avance pas.
Bah si.
Voilà, je fais un petit peu mon Sam là-dessus.
Moi, je trouve que ça avance, au contraire, quoi. La situation est posée, maintenant. On va pouvoir avancer, quoi. Enfin, bref. On va continuer dans le Uncanny avec Nono qui va nous parler du deuxième numéro d'Uncanny X-Force.
Ouais, Uncanny X-Force, écrit par Sam Humphries, dessiné par Ron Garnet et ancré par Danny Mickey et Scott Hanna. On avait fait la connaissance de cette cette pseudo nouvelle équipe d'X-Force, parce que pour l'instant ils ne sont pas encore vraiment assemblés, avec Storm et Psylocke d'un côté qui a rencontré Puck, le petit Canadien. D'un autre côté, on avait Fantomex et son clone sexy qui fait des trucs pas très réguliers avec son clone. Je pense qu'on pourrait apparenter ça à de la masturbation, hein, parce que
de l'onanisme.
De l'onanisme, voilà, tout à fait. Et d'un autre côté, le retour de Bishop. Voilà, ça c'était le constat à la fin du numéro 1. Donc là, Psylocke et Storm continuent leur bagarre avec Spiral concernant un trafic de drogue. Ils rencontrent une nouvelle mutante qui est sous la garde de Spiral, mais que Storm et Psylocke aimeraient bien récupérer. Il y a de la baston, il y a des passages assez drôles. Notamment un petit passage qui est fait en fait de jeux vidéo sur une page où Psylocke essaye de prendre le contrôle du cerveau d'un geek, et pour vraiment prendre son contrôle, elle transforme en fait son cerveau en ring de boxe à la Punch-Out, le vieux jeu NES ouais. des années 80.
Qui a été réadapté donc, voilà. sur Wii ensuite. Hein.
Oui, qui a été réadapté sur Wii, mais moi je suis un vieux. Et donc voilà. D'un autre côté, on a Fantomex et son clone qui décident d'aller récupérer Psylocke, parce que sans eux, elle est perdue, d'après eux. Donc ça c'est voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le moment. Et concernant Bishop en fait est revenu du futur pour récupérer cette jeune mutante.
Encore.
Oh là là. Comme c'est étonnant, comme on n'avait pas déjà vu ça il y a quelques années avec Hop, mais voilà, le numéro est hyper plaisant. Bon, j'avais pas le droit de mettre un troisième coup de cœur cette semaine. Steve m'a dit non, j'en mets que deux. Donc voilà, j'en ai mis que deux, mais Uncanny X-Force fait partie de mes très très bonnes lectures de cette semaine. Je l'ai trouvé bien au-dessus du numéro 1. Il y a juste un truc qui m'a dérangé. Alors je sais pas qui d'autre l'a lu, le Uncanny X-Force.
Bah moi.
Pareil.
Toi, Corwin. Et toi aussi, Steve.
Et Bunny aussi.
Et Bunny aussi. Moi, c'est juste le truc des brosses à dents. Donc,
justement, pour moi, c'est le gag du truc. Vraiment, ça m'a fait mourir de rire, ce gag-là. Mmh. Et c'est peut-être ma page préférée, d'ailleurs.
Ça m'a fait rire, mais en même temps, je pense pas que Obama et Elisabeth, la reine Elisabeth II, aient des brosses à dents aussi pourries.
Non, mais attends, mais ne spoil pas le gag. Mais moi ça m'a fait marrer. Moi ça m'a fait vraiment marrer, c'est totalement ouf, et ça sortait de nulle part, et non, franchement, ouais. C'est la page qui m'a fait marrer, quoi.
Ouais, c'était l'élément perturbateur.
Oui, voilà, c'est bien fun. Le truc qui est posé là, tu te demandes vraiment pourquoi.
Non, mais tu te demandes surtout en quoi c'est un bon cadeau.
Ouais.
Mais c'est parce que c'est un voleur et qu'il a réussi à aller voler ça à des personnalités. Non,
ça veut dire s'introduire dans la chambre de personnalité et dans leur intimité la plus proche. Enfin, je veux dire, même la brosse à dents, c'est le truc que tu ne partages pas en couple. C'est peut-être le seul truc d'ailleurs que tu ne partages pas en couple.
Ah non, moi il y a plein de trucs que je partage pas en couple.
Mais moi, on m'offrirait ça, je serais plutôt dégoûté, quoi.
Ah, mais
honnêtement.
Si on te dit, tiens, prends la brosse à dents de ta copine pour te laver les dents, tu vas pas le faire.
Oui, non, bah non.
Mais la prochaine fois que je te vois, Benny, je t'offrirai ma brosse à dents.
Attends, quand tu roules des pelles à ta copine, c'est pareil que d'utiliser sa brosse à dents.
Le seul problème, c'est qu'avec la brosse à dents, tu racles quand même la pulpe et tu racles toute la merde que t'as sur les dents. Avec la langue, tu la décolles pas aussi facilement, quoi.
Quand tu tailles la brosse à dents, tu peux racler du fond.
Non, puis je vous signale qu'hygiéniquement, de toute façon, si tu utilises la brosse à dents, t'as des chances aussi d'attraper des caries, etc. Puisque ça a été prouvé maintenant scientifiquement que ça se chopait aussi comme ça.
C'est marrant, dans un podcast de comics, nous parlons de brosse à dents, de brossage de dents, de tartre.
Et je suis content que ma blague hyper dégueulasse soit passée inaperçue.
Voilà. Par contre, moi, je suis toujours à la recherche du Tampax de certaines célébrités, donc je mettrai la liste dans les commentaires du podcast, bien sûr.
Le Tampax de Brad Pitt, pas sûr que tu le chopes. Hein.
Non,
tu l'avais mis sur ta liste, mais je pense pas qu'il en utilise.
D'accord, je vais le retirer alors, celui-là. Par contre, celui d'Harrison Ford, peut-être. Bon,
c'est pas possible.
Non, très vite sur cet épisode, j'ai trouvé que Bishop, moi ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il a l'air vraiment ridicule et il m'a fait penser au méchant dans le dernier Men in Black. Alors je sais pas si quelqu'un l'a vu, mais en tout cas, c'est exactement ça.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le Bishop qui arrive, alors déjà il était censé être mort, là finalement il revient, on sait pas pourquoi. Et surtout, il était censé être un méchant, et apparemment, aux yeux de certains X-Men, ils ont pas eu le mémo comme quoi c'était un vilain.
Ouais, ça c'est vrai.
Ça m'a un peu gêné. Après, dans l'ensemble, l'épisode se laisse lire bien comme il faut. J'aime beaucoup Puck. Franchement, il me fait bien marrer. C'est le petit fouteur de merde dans l'équipe de Gonzès, quoi. C'est assez
Bah,
rigolo.
ouais, disons que c'est à prendre vraiment comme un gros truc d'action et que faut mettre un petit peu le scénario de côté parce que j'ai pas l'impression qu'il fasse dans la finesse.
Oui,
Voilà.
c'est un comics type blockbuster, quoi.
Ouais, mais bon.
Moi, je le prends
Avec du
comme
Ron Garney
ça.
un petit peu en dessous de ce qu'il faisait avant, malgré tout. Voilà.
Ah, mais ça sort plus vite aussi, donc il a peut-être moins de temps pour les pages. Donc
Petit bail
voilà.
pour moi, ça reste sympa, mais
Bah pareil, un petit bail, mais c'était plaisant.
Je vais peut-être aussi donner mon avis quand même.
Bah vas-y,
Juste,
oui, bah tout à fait, vas-y, vas-y.
juste comme ça. Moi, franchement, j'ai pas aimé. Voilà, pas du tout. Les tentatives d'humour de Sam Humphries ne m'ont laissé complètement de glace. La scène de jeu vidéo, pour moi, c'était la scène de trop. Vraiment. J'ai trouvé ça
Moi ça m'a
ridicule.
pas moi ça m'a pas fait rire en plus. Ouais.
La scène de brosse à dents, sympathique, mais j'ai pas trouvé ça drôle. Il y a juste Puck qui est l'élément comique, mais moi j'aime bien Puck depuis Alpha Flight, donc voilà. Le fait de le voir là, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'il avait quand même bien disparu ces dernières années. Honnêtement, je me suis ennuyé. Le retour de Bishop, je le trouve vraiment naze. On verra qui est derrière Bishop, puisqu'on comprend bien qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais honnêtement, ça me passionne pas. Et comme tu l'as dit, Nono, voilà, nous refaire le coup de Hope, c'est bon, quoi. Sinon, on doit nous ressortir les mêmes scénarios tous les 4 ans, qu'on attende au moins 15 ans, quoi. Je sais pas, tous les 4 ans, quand même, c'est peut-être un petit peu abusé. Donc franchement, pour moi, c'est tout juste un check-it. J'irai vraiment voir le 3, juste pour voir, et ça déterminera l'avenir pour moi de cette série, si je la continue ou si j'arrête.
Je regrette quand même beaucoup Rick Remender sur cette série.
Ouais, je suis d'accord. On continue avec Bunny qui va nous parler du quatrième numéro de FF.
Scénario Matt Fraction, les dessins de Michael Red, et d'ailleurs quel dessin? Alors je ne cesse de le dire, mais j'étais pas du tout fan de Michael Red, enfin pas particulièrement avant, et là bah il s'est totalement emparé de l'univers totalement fou des FF. Et c'est super sympa. Maintenant, niveau
Génial.
scénario, alors en fait, c'est un petit peu un épisode parenthèse, comme je les appelle en général, c'est-à-dire que là, le principal de l'épisode, c'est Bentley 23 et puis les petits Molloïdes qui vont essayer de faire capoter un rendez-vous amoureux entre She-Hulk et son prétendant qui s'appelle, alors j'ai oublié son
Wyatt
nom,
Wingfoot,
Wingfoot, voilà.
qu'on n'avait pas vu depuis. Waouh!
Ben, je ne sais pas qui c'est.
Ah bah c'est
alors, son ex.
un vieux personnage qui tournait dans l'univers des FF depuis, introduit par Stan Lee et Kirby, quoi. Donc ça remonte.
Première apparition en
D'accord.
Fantastic Four 50.
Oui, c'était un petit peu comme le Dr. Bromwell dans Spider-Man qu'on ne voit plus depuis des lustres. Faudrait
Oui,
que Dan Slott le ressorte un
ou
jour.
comme Woody Lumpkin, hein, le facteur. Voilà,
Ah, on
c'est.
l'a revu dans FF par Hickman,
Oui,
justement.
non, mais ça fait partie de ces personnages-là, voilà, qui tournaient autour, qui ont eu des aventures, qui ont fait partie de pas mal d'aventures des FF, mais qui ont bien vite disparu maintenant.
Tout à fait. Bah alors écoute, merci de ton éclairage. Et donc
Et c'est tapé
voilà, alors
She-Hulk en plus, hein.
moi c'est un épisode que j'ai apprécié parce que encore une fois, il y a une dose d'humour assez incroyable. Et puis c'est super sympa. Enfin voilà, ça m'a vraiment transporté, on va dire. On se croirait dans une émission musicale. Non mais enfin voilà, c'est vraiment ma lecture la plus plaisante de la semaine. Et donc pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, encore une fois. Très bonne série sympathique, et on se quitte sur un cliffhanger qui m'a vraiment interloqué. Alors, je ne sais pas trop comment le prendre, ce cliffhanger. En tout cas, si j'étais à la place de Bentley, puisqu'on peut dire qu'il s'agit de Bentley quand même, bah, j'aurais été très content de cette visite.
Bah moi, si j'étais à la place de Bentley, je m'achèterais une voiture. C'est sur cette vanne pourrie que je passe la parole à Bruno.
bon, bah, je vais. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Pour l'instant, c'est un sans faute pour moi, les FF. C'est drôle. Il y a beaucoup d'inventions au niveau des dessins, toujours avec une mise en scène assez excellente de Michael Allred. Scénaristiquement, en plus, il y a des choses très intéressantes par rapport à cette équipe. Il y a toujours plein de petits clins d'œil partout. Enfin, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup et c'est un gros bail.
Eh ben, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. En revanche, pourquoi j'en ai pas fait mon coup de cœur cette semaine et que j'ai préféré choisir Guardians of the Galaxy, c'est que ça commence à être un peu long. Finalement, l'épisode d'avant, on avait pas mal She-Hulk. L'épisode d'encore avant, on avait pas mal She-Hulk. J'ai l'impression que She-Hulk est le personnage central pour Matt Fraction. Or,
Oh.
c'est. Ah bah, enfin, je trouve qu'elle a vraiment une
Bah,
très grosse place,
dans
quoi.
l'épisode précédent, moi je trouve que c'était surtout orienté autour de Scott Lang.
Il y
Ouais, et
avait quand
puis
même un
de
gros
Darla.
passage sur She-Hulk. Hein.
Ah, il y
Ah, je
avait
m'en souviens,
Darla qui
honnêtement, je m'en
dansait.
souviens plus. Donc comme quoi, ça m'a pas marqué, quoi, le passage sur Shield.
Voilà, j'aimerais que les choses avancent parce que, enfin, il y a plusieurs personnages dans l'équipe. En plus, Cliffhanger donne super envie. Donc ça reste une très bonne lecture, les dessins sont somptueux, l'ambiance est complètement folle et déjantée, donc c'est vraiment très drôle. Maintenant, j'aimerais voir aussi les autres membres de l'équipe et aussi les voir interagir en équipe, ou au moins essayer d'avoir des tentatives d'interagir en équipe, parce que pour le moment, ils sont toujours séparés.
Ouais, mais c'est les Fantastiques Faux.
Ben oui, voilà, ça leur correspond très bien d'ailleurs. Et c'est plus ça qui me gêne maintenant, c'est vraiment une toute petite critique, et l'épisode est vraiment excellent, quoi. C'est un gros gros bail encore une fois cette série. Pas de souci là-dessus. On passe à une autre série Uncanny, la dernière de la semaine, la troisième et dernière. Ça commence à être lourd, c'est le même titre. C'est le Uncanny Avengers numéro 4. C'est Bruno qui nous en parle.
Oui, Rick Remender au scénario, John Cassaday au dessin. Bon, le petit plaisir coupable. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette série pour l'instant. C'est la fin du premier arc qui voit le Red Skull s'opposer au Uncanny Avengers. On avait un Thor qui avait été contrôlé psychologiquement par Red Skull qui s'en prenait au Uncanny Avengers. On a de bonnes scènes d'action. J'ai bien aimé la mise en scène du combat. Il y a des petites idées que j'ai trouvées plutôt cool. On voit une Scarlet Witch qui montre un peu l'étendue de ses pouvoirs. C'était plutôt cool. Un petit peu d'humour. On a un Red Skull que je trouve excellent, enfin qui se fout de la gueule des Américains, qui les traite de gros redneck, et ça m'a bien fait rire.
Mais sa vision des choses n'est pas complètement fausse. Elle est juste un peu, un petit peu trop fascisante, quoi, trop extrême.
Un petit peu, ouais.
Mais finalement, a-t-il tort?
Bah oui.
Un petit peu.
Mais oui, il a tort sous son emprise.
Oh.
Et oui. Bravo.
La blague
bravo,
de Benny.
Après, non, bon, bah, c'est du Cassaday pas très en forme, hein. C'est pas terrible, terrible au niveau des dessins, on va dire.
Je trouve que t'es très gentil en disant que c'est pas terrible, terrible.
Ouais, c'est même,
moi, je
c'est même plutôt
c'est
moche.
Moi, c'est plutôt moche, moche.
Certains visages sont vraiment horribles. Il y a des petites choses qui m'ont quand même bien plu, comme des clins d'œil, comme par exemple un clin d'œil à une couverture très célèbre des X-Men. Et Remender s'amuse à nous faire une scène post-générique, et ça, j'ai trouvé ça cool. En plus, ça m'a donné vachement envie, un peu comme à la fin du premier numéro. J'ai vraiment très envie de voir la suite.
Qui l'a lu d'autre?
Moi.
Mais vas-y, non.
Eh ben, moi, c'est l'épisode de trop pour Uncanny Avengers.
Clairement. Ça s'arrête au troisième.
Non, mais ouais, ben voilà, c'est le quatrième et j'en ai déjà ras-le-bol. Cassaday, mais voilà, il y a des cases où il n'y a pas d'arrière-plan. Les visages, c'est deux traits pour les yeux, un trait pour le nez, un trait pour la bouche. Wolverine, à la fin. Voilà, il est immonde.
Ah, mais il a une pure tête, Wolverine, arrête.
Ah non, voilà, le mec, il se prend des balles et tout, il récupère en un quart d'heure. Là, il se passe je ne sais combien de temps, il a toujours la gueule amochée, faut arrêter. Ah,
il s'est fait exploser par Thor.
Ouais, non, je suis pas d'accord. Et non, vraiment, voilà, j'ai pas accroché du tout. Alors, peut-être parce que ça faisait un moment que j'avais pas lu, que j'avais lu le 3 plutôt. Voilà, pour moi, c'est un tout petit check-it, un check-it moins à la limite du pass, et je suis vraiment pas sûr d'aller voir le cinquième numéro.
Pour ma part, bah, je suis plus du côté de Nono. Honnêtement, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans cet épisode. Ça m'a gonflé. La bonne nouvelle, c'est que Cassaday, c'est terminé, on va pouvoir embrayer sur autre chose maintenant. Ce premier arc est terminé.
C'est qui après Cassaday?
C'est Quapel sur un numéro.
Quapel sur un numéro,
après,
ouais.
C'est...
je sais plus.
Acuna, je crois.
Ah
oui,
bah, peut-être,
je suis pas sûr.
Voilà, peut-être que ça ira mieux. Du coup.
Mais là, franchement, c'est vrai que cette histoire était trop longue. Elle aurait dû être traitée en 3 et non pas en 4. De plus, les délais, puisque rappelons que cette histoire a commencé au mois d'octobre. C'était quand même le premier numéro du Marvel Now.
Ouais.
Ça craint quand même. Ça craint, ça sort fin février, quoi.
Ça craint vraiment. Et moi, ça m'a fait marrer de voir que sur un site comme iFanboy, il y avait plus de poules pour des séries comme Hawkeye et puis comme... je sais plus laquelle était... Enfin, il y avait d'autres séries qui étaient devant celle-là, et ça m'a bien fait marrer, puisque c'était censé être le titre flagship de Marvel Now, et finalement, bah, ça s'est quand même bien cassé la gueule, quoi.
Voilà, l'histoire, en plus, n'était pas forcément, je trouve... C'est pas qu'elle était pas intéressante, c'est que je la trouve maltraitée, finalement.
Oui.
Pour une histoire de cette ampleur, c'est trop court, et à la fois, c'est trop long dans l'exécution, parce que finalement, on avait juste une envie, c'est que ça s'arrête à l'épisode d'avant, quoi. Donc, je sais pas.
Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est... Ok, Red Skull, il a piqué le
Red Skull.
Red Skull, ouais, parce que à ce niveau-là, t'as qu'une envie, c'est voilà. Et
oh non,
il a piqué.
Non. Faut être sacrément bourré sortir de prison depuis au moins 50 ans, quoi.
Ah mais ouais, il y en a. Hein. Et voilà, Il a piqué le cerveau de Xavier, il s'est dit, bah tiens, voilà, je vais piquer son cerveau, comme ça je vais avoir ses pouvoirs. Donc déjà, ça me paraît déjà un peu gros.
Ah mais ça, moi, ça passe pas. Hein.
Voilà, comme principe scénaristique, ça me paraît gros. Et si vraiment il avait les pouvoirs de Xavier, mais il met tout le monde à genoux.
C'est qu'il sait pas s'en servir.
Mais il le maîtrise ouais. pas.
C'est pour ouais, ça, c'est comme... ça, c'est l'explication de merde.
C'est pas aussi doué que Jean Grey qui apprend à contrôler ses pouvoirs en deux minutes.
Ouais, mais il arrive à contrôler Thor, je suis désolé. C'est comme il y a un truc scénaristique que j'ai trouvé complètement à côté. Ils savent tous les super-héros savent qu'il y a des mutants, télépathes, etc. Pourquoi ils n'intègrent pas tous dans leur casque ce que Magneto a fait?
Parce que Magneto, il a déposé le brevet.
Ouais, non mais tu vois,
non mais je sais bien, mais c'est des considérations tout à fait logiques quand tu lis un tout petit peu de comics et tu dis mais attends, vous êtes franchement trop cons les mecs.
Mais ouais.
Voilà, je crois qu'il faut faire avec. C'est justement là, moi Remender me déçoit là-dessus quoi, vraiment.
Moi aussi.
Oh, c'est rigolo.
Moi j'ai trouvé ça à chier, hein, honnêtement, et j'ai même pas lu celui-là du coup.
Non mais
ouais, moi je trouve ça sympa dans le sens où à côté de ça on a des séries comme Avengers, des séries Avengers Dickman qui sont très sérieuses que j'aime beaucoup aussi, et là on a un côté un peu plus cool quoi. Et,
ah bon,
ah non mais c'est pas censé être cool, c'est ça le problème, c'est que c'est pas censé être cool.
Moi j'aime bien.
Ah oui, non, faut arrêter.
C'est censé être une histoire dramatique, il y a pas d'humour dans l'histoire, il y a rien quoi. C'est pas du tout une histoire qui est censée faire marrer. Tu trouves ça rigolo, mais à la base c'est pas prévu pour être rigolo. Donc il y a quand même un problème.
Je suis pas sûr, hein, Remender.
Non mais c'est un fan de Dieudonné. C'est un fan de Dieudonné. Il trouve ça drôle.
Non mais comme disait Tristan, c'est censé être le titre de Marvel. Et quand tu vois déjà le temps qu'ils ont mis à sortir 4 numéros, tu dis mais merde. À un moment.
Ouais,
faut arrêter,
ça c'est un faux procès parce que, enfin, je veux dire, Captain America, on en est au numéro 4 aussi. C'est
oui,
pareil,
mais ça sort un
série,
par
hein.
mois et c'est régulier.
Bah oui.
Ouais, mais bah voilà, en fait, au final.
Ouais, mais attends,
ça fait comme
il s'est passé, regarde,
mois,
depuis mois d'octobre.
Un mois de retard, c'est tout, quoi.
Bah oui, mais l'histoire a commencé au mois d'octobre avec le premier titre de Marvel Now où le Captain America a commencé en décembre, si ma mémoire est bonne.
À peine un mois plus tard.
Non, c'est du gros foutage de gueule, honnêtement.
Et puis la qualité n'est pas présente pour accepter ce genre de retard, quoi. Honnêtement, les pages les plus intéressantes sont les trois dernières, ce qui nous présente une future histoire, donc quelque chose qu'il va falloir qu'on attende encore.
Moi je l'ai pas lu, j'ai regardé simplement justement ces trois dernières pages et justement ça m'intéresse. Peut-être que je vais reprendre après cet arc, mais en tout cas cet arc, je suis content de ne pas l'avoir terminé parce que honnêtement ça m'a saoulé.
Donc pour moi, check it, notamment pour ces trois dernières pages, et vivement la suite, quoi. Vivement qu'on se débarrasse de ça et qu'on passe à autre chose.
Petit bail pour moi.
On continue avec Nono qui nous parle du cinquième numéro d'Avengers Arena.
Ouais, du cinquième épisode, Denis Soples au scénario, Kev Walker au dessin, Frank Martin à la colorisation. Donc on continue sur ce Murder World, où on va s'intéresser plus particulièrement à Kit Britton. Brighton, je sais pas comment
prononcer.
Britton. C'est la première fois que j'entends parler de ce petit gamin qui n'a pas l'air si gamin que ça, en fait.
Bah, c'est le petit gamin en anglais, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, tout
un
à
Britain,
fait.
Britain, alors.
Bah non, ils l'écrivent Britton.
À Britton.
Ouais.
Bah, il fait partie du Britton Corps, là, enfin, de tous
oui.
les... Captain
oui,
Britain,
il est allé à la Braddock Academy, etc. Donc, l'épisode est vraiment centré sur lui. Donc on revoit un peu tous les personnages. Cette fois-ci, il y a pas de mort. J'ai trouvé l'épisode 5 un petit peu en dessous de l'épisode 4. L'épisode 4, j'avais trouvé très très bon. Par contre, là, le 5, pour moi, ça sera un tout petit bail parce que on n'apprend pas grand-chose. Il y a juste Arcade qui décide de changer un peu les règles du jeu parce qu'il se fait chier. Forcément les gamins décident de pas se battre, donc lui il se fait un petit peu chier. Et voilà, on sent qu'il y en a qui commencent à péter un petit peu les plombs. Mais c'est pas aussi intéressant que le 4. Donc pour moi, un petit bail.
On passe au 17e numéro d'Avenging Spider-Man, Bruno.
Oui, c'est Yost au scénario et Medina au dessin. Dans cette histoire, on a Superior Spider-Man qui va rencontrer la Future Foundation, puisqu'il est appelé par les 4 Fantastiques pour faire la babysitter, en fait. Donc, vous imaginez, Octopus, il a pas trop envie de s'occuper des petits gamins de la Future Foundation. Sauf qu'il tombe pile au moment où, en fait, il y a la TVA, l'autorité du temps, qui décide d'envoyer un assassin pour exterminer toute la Future Foundation, parce qu'ils sont censés faire quelque chose qui va détruire tout l'espace-temps. Donc, il se retrouve avec la Death Head qui s'en prend à Spider-Man et à tout la Future Foundation, Et bah c'est très drôle, c'est vraiment dans le même esprit un petit peu que FF au niveau des personnages de la Future Foundation. On a pas mal d'humour avec Superior Spider-Man. Et à la fin, on a aussi un Superior Spider-Man qui a profité pour faire quelque chose d'intéressant dans le backstory building. Et c'est assez mystérieux. Pour moi, c'est une série qui est vraiment cool. C'est mieux que Superior Spider-Man. Et je prends plaisir à la lire mois après mois. Donc voilà, j'aime bien. Franchement, c'est un très bon titre, un bail.
Bail, carrément.
Ouais, carrément, c'est vraiment cool.
Ok, on passe à la suite Young Avengers numéro 2, Nono.
Donc oui, Young Avengers 2, écrit par Kieron Gillen et dessiné par Jamie McKelvey et Mike Norton. Donc numéro 2, le numéro 1 était sorti il y a peu de temps, hein, il me semble. C'était il y a 15 jours, 3 semaines, je dirais.
Un mois, non?
Ouais, ça m'a semblé...
Je
ça
sais
m'a semblé plus.
Plus
récent, mais c'est pas grave. Donc, on avait laissé nos amis, dont j'ai oublié les noms, parce que c'est des gens avec qui je suis pas hyper
Hulkling,
familier.
Hulkling
et Wiccan. Wiccan, voilà. Où Wiccan avait fait revenir la mère d'Hulkling d'une dimension bizarre. Et en fait, on se rendait compte à la fin du numéro 1 que la mère était pas forcément tip-top dans sa tête et dans son corps. Donc, voilà. Donc, rappelons.
Elle a pas mangé du Danacol.
Voilà, rappelons quand même que Wiccan, pardon, et Hulkling sont ensemble, sont deux garçons et sont ensemble. Donc, c'est vraiment le focus là sur cet épisode, sur eux deux.
Encore.
Encore par rapport au premier, voilà. Donc, la mère a une espèce de pouvoir assez rigolo et assez bizarre où elle peut faire apparaître des cases blanches et enfermer les gens dedans. Donc visuellement c'est magnifique. J'ai trouvé ça comme idée vraiment géniale. Ça fait beaucoup de repos pour le dessinateur parce que du coup il a qu'un carré à faire et le petit personnage à l'intérieur.
Puis ça fait des économies chez Ikea.
Oui, non. En termes de meubles.
Ah d'accord.
Putain, excusez-moi d'avoir plombé l'ambiance, je m'en vais.
Ah ouais, carrément, voilà, carrément.
Je quitte le plateau.
J'adore. Il faut expliquer la blague de Bunny maintenant.
Ouais.
Et donc voilà, donc en fait, ils se rendent compte que la maman de Hulkling est pas très bien, et donc ils vont voir les Avengers, des Avengers avec un Captain America immonde et une Vanda Maximoff qui a dû faire le régime du camp. Je trouve qu'elle a bien fondu par rapport à l'époque. Et en fait, pour eux tout est normal. Et il y a Kid Loki qui va venir les sauver. Et voilà, ils vont vouloir retourner en Asgard. Ah voilà, ils appellent ça Asgardia. Et vu que j'ai pas trop suivi
oui,
la
c'est parce
mythologie,
que... alors depuis Fear Itself, en fait, Odin est mort. Enfin, Odin est pas ouais. mort. Il est parti sceller Asgard, pensant que son fils était mort de dépression et tout. Et ce sont les trois reines qui ont repris. Et donc, elles ont changé le nom en Asgardia maintenant, qui est une patrie qui peut accueillir tous les dieux.
Mais il me semble enfin, que dans Fear Itself, Asgard remettait, Odin remettait Asgard à sa place, non?
Oui, mais la partie qui est restée sur Terre s'appelle Asgardia.
D'accord.
Ouais, Fear Itself, c'est pas le meilleur truc de Marvel, hein, donc c'est bon.
Non, mais c'est, ça vient de là, donc on est obligé d'en parler aussi, quoi.
C'est ouais, super sympa,
c'est
désolé,
suite à ça. C'est peut-être une des seules conséquences qu'il y a eu Fear Itself, et c'était dans Thor.
Non, mais je rigole, il faut bien que Nono soit là pour parler de Fear Itself à chaque fois.
Bah oui. Puis Sam n'est pas là, donc je peux dire que c'était vachement bien Fear Itself.
Donc, non, mais par contre, on va être là pour dire non, c'était pas bien, quoi.
C'est de la grosse merde, Fear Itself. Enfin, franchement, c'était
non,
tout
voilà,
pourri.
Un épisode sympa, pas la meilleure lecture du mois. Voilà, c'est une équipe que je ne connais pas, parce que j'ai jamais lu d'équipe Young ou New, comme il le présentait chez Marvel, donc tout ce qui est New X-Men, Young Avengers, même Avengers Academy, c'est des trucs que je n'avais absolument jamais lus. Donc voilà.
On croyait que t'aimais bien les lectures avec des enfants, pourtant, mais bon.
Ouais, mais ça dépend des magazines. J'aime bien le magazine Détective quand ça parle des enfants, parce qu'en général ils sont morts. Et mais là, voilà, c'était sympa. Voilà. Alors Steve, tu l'as lu aussi, il me semble.
Ouais, je l'ai lu. Moi, je me suis franchement super ennuyé. Mais vraiment super ennuyé. J'arrive pas à rentrer dedans. Par rapport à ce qu'on avait eu dans le Point One, qui était mais super alléchant. Là, je suis fortement déçu. Pour moi, c'est un check-it moins. Franchement,
ouais, c'est vrai que,
super chiant.
Voilà, Novar, on n'en parle pas. On a vu trois pages dans le premier et c'est tout. Et voilà, là, ouais, pareil, un check-it.
On passe à Hawkeye 8. J'espère qu'il n'y a rien de cassé derrière. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir les passer au montage.
C'est Bulma qui a fait tomber des trucs.
Je suis pas sûr de pouvoir les passer au montage, donc je pense que voilà. Hawkeye numéro 8, c'est Bunny qui nous en parle.
Ah oui, et Matt Fraction est au scénario et David Aja est au dessin. Alors, un épisode toujours assez décalé hein, par rapport au reste de la production de l'univers Marvel actuel, avec un Hawkeye qui, là, part défendre une femme mystérieuse, un petit peu sa copine du moment, qui est impliquée dans une sombre histoire de cambriolage. Enfin voilà, c'est assez nébuleux tout ça. Et au fait, on se demande s'il est pas en train de se faire avoir par cette nana, tout simplement. Il y a pas mal de gags et il y a des pages, au fait, des fausses couvertures intégrées au fur et à mesure du récit, des couvertures de comics, de romances, au fait, de fausses couvertures. Et on comprend la signification de ces couvertures à la fin de l'épisode, puisqu'au fait, on a besoin de faire attention à ce qu'il y a dessus pour voir certains indices qui nous permettent de comprendre ce qui se passe à la fin. Enfin voilà, je sais pas si je suis assez clair dans mes propos.
Bah, pour mais, moi, oui, en tout cas, c'est vraiment une lecture où il faut faire attention aux détails, une lecture assez cryptique, et voilà.
Voilà, exactement. Avec beaucoup d'idées, justement, intéressantes dans la construction de l'histoire, et toujours beaucoup d'humour, donc pour moi, c'est toujours un bon bail. Ça a failli être mon coup de cœur, mais l'épisode est un peu en dessous d'habitude, parce que j'ai moins rigolé quand même. On termine quand même sur un bon cliff, donc voilà, toujours un très bon titre, ce Hawkeye.
On remarquera que tes deux lectures les plus marquantes de la semaine restent le Hawkeye et le FF, donc deux produits Matt Fraction.
Ouais, deux Matt Fraction, c'est totalement l'inverse d'avant avec le Marvel Now. Matt Fraction et Bendis sont devenus les deux valeurs sûres pour moi, alors que les autres, c'est incroyable.
Ouais, alors que bah, avant, t'en étais lassé, quoi, avant ce Marvel Now, c'est marrant.
Avant c'était Remender, Aaron, des gens comme ça, Brubaker qui n'est plus là, mais voilà. Donc c'est totalement l'inverse.
Ouais, comme quoi, les goûts changent, ou les scénaristes changent, ça dépend.
Ouais, mais...
On termine la partie Marvel avec la sortie du 22e numéro d'Ultimate X-Men, c'est bien sûr notre spécialiste Ultimate qui nous en parle, Bruno.
Oui, Brian Wood au scénario, Carlo Barbieri au dessin, un épisode qu'on peut très facilement zapper, puisqu'il en fait, nous raconte un peu ce qui est arrivé à Storm. Donc ça se passe dans le passé, on voit comment elle a pu s'enfuir avec Colossus, ce qui lui est arrivé, pourquoi elle n'est plus avec Colossus. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas non plus hyper captivant, et franchement, on peut carrément s'en passer.
Mais pourquoi donc, tu nous en parles dans ce podcast?
C'est juste un check-it.
Mais c'est bien de le mentionner aussi bah pour que les gens sachent. Hein,
d'accord.
Tout simplement.
Bah ouais.
Donc on termine la partie Marvel sur un check-it. On passe maintenant au côté indé et c'est Five Weapons qui ouvre le bal. Nono, tu nous en parles, c'est une production Image.
Ouais, Image Comics, Five Weapons, écrit, créé, illustré et lettré par Jimmy Robinson.
Putain, le mec, il fait vraiment tout, quoi.
Ouais. Ah ouais, c'est tu sens que c'est son bébé, voilà. Donc ça raconte l'histoire d'un mec qui arrive dans une d'un jeune ado, on va dire, qui arrive dans une école un peu bizarre parce que c'est d'après ce que j'ai compris, c'est une école d'assassins où chacun doit choisir un club. Donc il y a 5 clubs différents qui représentent 5 armes différentes forcément.
Oh, c'est Poudlard.
C'est un Poudlard assez spécial quand même, hein, parce qu'il y a un club de couteaux, un club de...
couteaux de cuisine.
De couteaux noken, c'est ça?
Ouais.
Non, de couteaux et tout autre objet tranchant, on va dire. C'est parce que les haches rentrent dedans, les katanas, etc. Un club de massue.
C'est donc le club de Corwin, hein, le premier c'est le club pour Corwin.
Voilà, tout et à voilà. Fait. Un club d'arc, un club de d'armes exotiques et un club d'armes à feu. Et
le mec, il a pris son manuel de Donjons et Dragons, il a regardé, il est...
Et donc ce gamin, en fait, est nouveau dans l'école et il doit forcément choisir un club parce que c'est obligatoire. Et il décide de n'en choisir aucun et de prouver à tout le monde que il va pouvoir s'en sortir sans forcément avoir un club et une arme de prédilection. Et on comprend que ce gamin fait partie d'une famille assez célèbre dans le monde du meurtre et de l'assassinat, parce que tout le monde le craint un petit peu en disant ah tu fais partie de telle famille, etc. Donc c'est un titre assez intrigant pour un numéro 1, clairement. C'est pas une au niveau dessin ça se tient, mais c'est pas exceptionnel. Jimmy Robinson, je ne connaissais pas, je sais pas s'il a fait autre chose avant, certainement que oui, mais qu'est-ce qu'il a pu faire avant, j'en ai aucune idée. Donc voilà, pour moi c'est un check-it plus. J'irai voir le numéro 2 par curiosité. J'ai oublié de dire que c'était une mini en 5.
C'est une mini en 5, d'accord. C'est la question que j'allais te poser.
Donc voilà, un bon petit check-it, un check-it plus. J'irai voir le deuxième épisode pour voir ce que ça vaut. Mais je pense que clairement ça peut. Ça fait beaucoup penser à du Morning Glory.
Bah franchement, la façon dont tu as raconté ça, enfin, on m'aurait pas dit que c'était du comics, j'aurais dit que c'était un shonen, quoi. Tu vois.
C'est effectivement. Et même dans le dessin, ça se rapproche beaucoup du manga. C'est des couleurs très pastel.
Mais Morning Glory a un côté très manga quand même, justement.
Oui, aussi, oui. Oui, tout à fait.
On passe à la suite. C'est une production de chez Dark Horse, si ma mémoire est bonne. Haunted Horror numéro 3, Bunny.
Non, c'est IDW.
C'est IDW, pardon.
Et oui, alors IDW, alors en fait, c'est pas vraiment une production IDW non plus, puisque c'est des vieilles histoires, des vieux comics des années 50 qui sont allés récupérer et qu'ils essayent de mettre dans des petites anthologies comme ça. Donc différents comics comme Web of Evil numéro 2 qui est sorti en janvier 53. Je dis ça, c'est la première histoire sur laquelle je tombe. Mais bien souvent, en fait, ils ont même pas les artistes, les encreurs, etc. Donc, ils supposent que c'est un tel qui a ancré tel épisode.
Oui, à l'époque, c'était vraiment du travail à la chaîne. C'était pas forcément crédité et on reconnaissait peut-être par rapport au style.
Exactement.
Ou quand les gens voulaient bien dire qui avait fait quoi. Mais c'était
exactement.
Très
rare. Exactement. Ce qui est assez étonnant puisque le travail est, enfin, il y a des histoires où c'est super bien fait, c'est vraiment super agréable, de bonnes petites histoires sympas. Alors ça fait vraiment penser à Tales from the Crypt, mais c'est beaucoup moins connu que les Tales from the Crypt. Donc c'est vraiment du matériel récupéré, retravaillé, recolorisé, pour que ce soit à nouveau republié, et c'est vraiment une bonne chose. Donc on a des histoires par exemple avec un pendu qui revient à la vie et qui se venge des gens qui l'ont accusé à tort. On a une histoire qui est assez marrante qui s'appelle Le Monstre dans la piscine, avec une espèce de poulpe à tête de coq assez ridicule. C'est vraiment très années 50 et moi j'adore tout ce qui est un petit peu
compris,
comme ça.
J'ai pas compris, c'est vraiment du matos des années 50 ou c'est
tout
du matos des années 50 réadapté?
Non, c'est du matos des années 50 totalement. C'est simplement qu'ils ont récupéré les planches et qu'ils ont un petit peu retravaillé les pages, quoi, les couleurs, pour leur donner un petit peu de, hein, parce que bon, enfin quoique à peine, puisqu'il y a vraiment des trucs où tu sens vraiment que c'est les planches telles qu'elles étaient à l'époque. Enfin bref, voilà. Donc il y a vraiment un peu de tout et ça fait vraiment penser aux histoires telles Tales from the Crypt et c'est super sympa. Et donc voilà, si vous êtes comme moi fan des histoires d'horreur de cette époque, sautez dessus puisque c'est toujours super sympa d'avoir ça.
Combien de petites histoires dans ce numéro ?
Il y en a 5 je crois et je peux pas partir sans citer aussi l'histoire d'un gamin qui joue aux billes avec des yeux.
C'est toujours sympathique.
C'est toujours sympa.
Mais quand on a plus de billes dans son sac, il faut bien les remplacer, hein.
Les yeux de son père qui est aveugle. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, bref.
C'est pas grave, du coup, ça lui manque pas.
Ouais.
Ça fait partie de ces stratégies d'IDW de continuer de ressortir des vieilles histoires d'horreur. On a les Eerie Archives ou les Creepy Archives. Justement, là maintenant, on a Haunted Horror.
Mais là, c'est vraiment un gros travail de recherche et de. Enfin voilà, ils ont vraiment réussi à remettre la main dessus parce que c'est très très compliqué. À chaque fois, ils expliquent à quel point c'est dur de remettre la main sur ces vieux comics qui ont totalement disparu, quoi. Parce que Eerie Creepy encore a eu. C'est très réputé, donc c'est simple à récupérer, mais alors ça, c'est vraiment des trucs très confidentiels à côté.
On passe au dernier titre indé de cette semaine, c'est La Madeleine de Proust de Corwin, Rocketeer Hollywood Horror numéro 1.
Oui, enfin, là pour cet épisode, j'irai peut-être pas jusque là. Alors, c'est publié par IDW. Cette fois, au scénario, on va retrouver Roger Langridge. Et au dessin, c'est G. Bone. Alors, je sais pas pourquoi, c'est sans doute un jeu de mots d'artiste. Ça, pour ceux qui ont suivi, ça n'a aucun lien à première vue avec la mini-série précédente Cargo of Doom.
C'est par Mark Waid.
Voilà, c'est une nouvelle histoire à part entière. Et donc on retrouve Cliff Secord, alias le Rocketeer. Et donc comme pour Cargo of Doom, le scénariste a repris un petit peu l'univers qui avait été développé par Dave Stevens.
Oui, c'est ça.
C'est ça, voilà, Dave Stevens. Donc, bah, cet univers à la fin des années 30, sur fond de Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a une ambiance qui est assez bien retranscrite. Cette fois, le procédé narratif veut que ce soit un parfait inconnu qui va être le narrateur de l'histoire. C'est lui qui nous raconte un petit peu les choses, et puis après, on voit l'action se dérouler. Et alors, cet épisode permet vraiment de planter le décor, et grosso modo, on a un Rocketeer qui va affronter Cthulhu. Donc,
Putain.
Cargo of Doom, c'était des dinosaures, là, ça va être Cthulhu.
Quand il change
Donc,
d'univers, il change d'univers.
voilà, c'est assez sympathique à lire. Après, ça prend le temps de poser le décor, donc c'est peut-être un petit peu long au début. Les dessins sont beaucoup plus cartoonis que ce qu'on avait précédemment, hein, que ce soit dans l'œuvre de Stevens ou dans la mini-série précédente. Bon, moi, j'ai passé un agréable moment de lecture, mais je dirais que pour le moment, ce numéro 1, c'est un check-it plus. Faudrait que l'histoire aille un peu plus vite et qu'elle soit un peu plus péchue dans le prochain numéro.
Ok, on va terminer l'émission, en tout cas, on va terminer les reviews de cette émission avec la partie DC et on commence par le gros numéro très controversé cette semaine. C'est le Batman Incorporated numéro 8, Bruno.
Oui, Grant Morrison au scénario, Chris Burnham au dessin. Très jolie couverture qui nous a été cachée jusqu'au dernier moment où on voit un Robin dans une pose qui rappelle la couverture de Batman RIP avec
Enfin,
marqué RIP en bas avec le logo de Robin.
elle a été
donc
leakée il y a 2 semaines, hein, quand même.
voilà, et
Ouais.
donc vous pouvez vous douter un peu de ce qui peut peut-être se passer dans le comics. Un petit peu c'est pas la conclusion d'un arc, mais on avait laissé Batman dans une très mauvaise position puisqu'il s'était fait capturer par Talia qui l'a enfermé dans un coffre. Et qu'il a jeté au fond d'une piscine. Et elle sait très bien qu'il va s'en sortir, mais elle compte bien sur le fait que ça va lui prendre du temps pour sortir pour pouvoir accomplir quand même sa mission, à savoir foutre le bordel dans la Wayne Tower et également faire s'affronter son fils Damian avec The Hérétique, cette créature qu'on voit depuis très longtemps, enfin cet homme un peu avec ce masque bizarre, dont on sait maintenant vraiment qui il est, d'où il vient, et on a droit à une confrontation entre les deux personnages dans la Wayne Tower, que j'ai trouvé vraiment bien, bien faite, moi, personnellement. J'ai beaucoup aimé ce numéro, il se passe quelque chose donc de très important dans ce numéro. Et bah, je trouve que Morrison fait les choses vraiment très très bien. J'ai adoré. Après, on va dire que je suis un fanboy de Morrison, mais j'ai trouvé ça excellent. Et il y a à la fois une bonne complicité entre Damian et Nightwing. Avec, y a une implique, une, on a aussi Red Robin qui est vachement utilisé mieux que dans Teen Titans depuis le début des New 52. Moi, j'ai trouvé ça cool. Donc, franchement, un très bon numéro qui m'a, franchement, que j'ai lu d'une traite sans m'arrêter et que j'ai vraiment adoré.
Oh bon, en même temps, il se lit en 5 minutes. Hein.
En même temps,
Ah,
ouais,
et quand même.
si t'arrives pas à lire un numéro de 20 pages sans t'arrêter, quand même, Bruno.
Ouais, bah tu sais, c'est un peu comme toi, t'as eu du mal avec We Avengers, hein. Tu t'arrêtes au bout de 15 pages.
Oui,
Donc,
mais c'est.
ça peut
Enfin,
arriver, hein.
oui, non, mais
Mais
je veux dire, le préciser, enfin, à la rigueur, un numéro de 20 pages, ce serait un truc de 150 pages, tu dis que tu l'as lu sans t'arrêter. Oui, effectivement, là, ça vaut le coup d'être précisé. Sur un
En plus, il
numéro
n'y a
de
pas
20
beaucoup de
pages.
dialogue, hein. Il n'y a
Ah, mais je me
vraiment pas
rappelle
beaucoup
que
de dialogue.
Bunny nous avait parlé de numéros où il avait fallu qu'il s'y reprenne à 4 fois pour le lire. Donc...
Ouais, mais parce qu'il y avait du dialogue, là,
Mais
il n'y en a pas en plus.
non, franchement, pour moi, c'est un super numéro et je trouve que ce que fait Morrison dans Batman Inc. est excellent. Donc, pour
Bon.
moi, un gros buy.
Bon,
Je sais pas
moi,
ce que
je
vous en
trouve
pensez.
ça très mauvais. C'est mal écrit, c'est. Au fait, le gros de l'épisode, le gros cliff, enfin, j'ai envie de dire, le gros événement est tellement ellipsé que j'y crois pas du tout. Franchement, c'est. Enfin, limite, j'ai l'impression que le mec ne sait pas raconter une histoire.
Je vois
Ce qui
pas
est
en
quand même
quoi c'est, je vois
problématique.
pas en quoi c'est ellipsé, moi perso. Mais
Totalement. C'est fait en 2 images.
ouais, je suis entièrement d'accord avec Benny. Voilà. 2 images à la fin, pouf, pouf, c'est fait. Voilà.
Justement,
Merde.
moi je crois que c'est justement un contre-pied à l'habituelle façon de raconter ça.
Oui, bah c'est à chier. Voilà. Enfin, moi c'est mon avis personnel. Je trouve ça parce que s'il suffit de raconter en 2 images, n'importe qui peut le faire. Enfin, je veux dire, y a pas
Oui,
de
mais
talent derrière
n'importe
ça,
qui peut le
quoi.
faire, mais personne le fait. Et justement, lui va le
Bah parce
faire.
que personne le fait parce que justement c'est pourri. Enfin, moi c'est mon avis.
Alors, sans
Voilà.
aller aussi loin que Bunny, pour moi j'ai trouvé ce
J'y
numéro
crois pas,
sans
quoi.
intérêt.
Oui, voilà, c'est
Sans
ça. Non mais,
intérêt
bah
aucun.
c'est.
Alors, je n'ai pas lu Batman Inc., je tiens à le préciser. J'ai lu cet épisode uniquement parce qu'il se passait quelque chose d'énorme et que je voulais pas passer à côté. Donc, bon, le personnage le connaît forcément à travers la mythologie batmanienne. Mais j'ai trouvé ça tellement vite amené, tellement perdu au milieu d'une splash, d'une page quelconque, que à la fin, je dis non. Bah, honnêtement, non. Bah,
c'est pas, vite amené, ça a été amené au bout de 6 ans de parution, quoi. C'est une histoire qui a 6 ans d'histoire, donc ça, je vois pas en quoi c'est vite amené. Mais...
Non, je te parle de l'événement final qui est vite amené. C'est de totalement. C'est ça que je dis que c'est vite amené. Moi, j'ai trouvé l'épisode sans intérêt.
Et surtout, et Grant Morrison se la pète et imbute sa personne à un point incroyable, au point qu'il fait dire à Damian que la meilleure team qu'il ait jamais eue avec un Batman, c'était quand il était avec Dick Grayson, quand Dick Grayson était Batman. Et pourquoi ? Eh bah, ben, tout simplement parce que Batman et Robin, ça a été écrit avant par Grant Morrison, à l'époque où Dick était Batman, et que maintenant que c'est Patrick Gleason, eh ben, Damian dans la bouche, enfin, Morrison va pas faire dire à Damian que c'est bien mieux quand il fait équipe avec Bruce Wayne. Non, non, il va dire que c'était bien mieux quand il faisait équipe avec Dick Grayson parce que c'était lui qui l'écrivait à l'époque.
Arrête.
Il n'est pas le seul à l'avoir écrit. Hein,
Batman
le
et Robin, c'était vraiment une bonne équipe alors que depuis qu'il est avec Bruce. Ouais. C'était le bazar, quoi.
Mais non, mais oui, moi je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ces propos-là. La meilleure team qu'on a pu avoir, c'est de Dick Grayson en Batman, qui pour moi est un énorme regret depuis ces New 52 de retrouver Bruce Wayne sous le costume, et Damian en Robin. Il y avait une carrément très bonne complémentarité des deux personnages, et de toute façon, Damian au contact de Dick Grayson est devenu nettement moins con. Et c'est depuis qu'il est avec Dick Grayson. Rappelle-toi, au départ, quand il était avec Bruce Wayne, c'était un gros connard.
Alors moi, je le trouve toujours imbuvable, mais bon.
Ah, il a quand même, enfin, relis les épisodes au départ où il apparaissait et où il était devenu Robin, et lis les épisodes de maintenant, tu vas voir la nette différence, quoi. Ouais, Batman est supportable. Damian est supportable maintenant, alors que moi, au départ, je ne le supportais pas. Là, j'arrive encore à franchement, pas, j'irai pas jusqu'à l'apprécier parce que non, mais j'arrive en tout cas à le supporter.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que peut-être je vais pouvoir enfin l'apprécier, ce personnage. Voilà.
Qui d'autre l'avait lu, Corwin, tu l'avais lu ?
Non, moi je l'ai zappé.
D'accord. Pour ma part, moi j'ai trouvé que c'était, bah, comme Bruno, un bon épisode. Ce que j'ai aimé, c'est justement ce contre-pied, la façon dont c'est fait, qui est justement quelque chose que l'on voit pas souvent. D'habitude, c'est toujours très grandiloquent, limite avec des plans... larmoyant au possible, ou des plans très clichés. Là, on a justement tout ça pris à contre-pied, expédié de façon rapide.
Expédié.
Sur une page quand même qui... Enfin voilà, la confrontation entre Damian, je vais pas arrêter de me planter jusqu'à la fin avec Batman maintenant, entre Damian et le personnage qu'il affronte, et on peut le dire de toute façon puisque c'est sorti le mois dernier, qui n'est nul autre que son clone adulte. Donc cette rencontre entre Damian et Damian, finalement, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant cette façon de le raconter et de mettre les choses comme ça. Je trouve que voilà, ce combat est plus intéressant puisqu'il est finalement face à lui-même et non pas face au Joker, par exemple, pour reprendre l'exemple de Jason Todd.
Oui.
C'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant.
Quand on met en parallèle avec le numéro de Batman The Return qui a maintenant plus de 2 ans et demi, je crois, ou qui introduisait justement le personnage de The Heretic. Je vous invite à le relire d'ailleurs parce que il y a un dialogue. Il y a un dialogue entre Damian et lui qui résonne justement dans ce numéro et qui montre à quel point le plan de Morrison était vraiment bien huilé. Et voilà, c'est du beau boulot, quoi.
Voilà, moi j'ai pas forcément aimé tous les épisodes de Batman Inc. Il y en a certains où je me suis franchement fait chier, carrément.
Oh, je suis d'accord avec toi, hein, c'était pas tout.
J'ai juste aimé le premier.
Voilà. Surtout sur certains personnages de différents pays, là, les Batman de certains pays qui n'étaient pas très intéressants. Ils n'étaient pas tous aussi intéressants, on va dire.
Mais ça, c'est surtout très brouillon, je trouve. Ouais. Et là, au contraire, on n'a pas un épisode brouillon, et ça, c'est avantageux aussi. Pour moi, l'épisode n'est pas brouillon, l'épisode est forcément facile à lire. Enfin, Nono, toi, tu l'as lu sans avoir lu les autres épisodes de Batman Inc. T'es-tu senti perdu ?
Pas du tout.
Ce qui montre aussi que c'est un épisode facile d'accès, sans pour autant déconcerter le public qui suit le Batman Inc. depuis le départ. Bon, voilà, je pense que Morrison a fait un épisode qui est lisible par tous, et c'est peut-être aussi ça qui est intéressant, c'est que cet épisode qui, si cette révélation est bien vraie, pourra marquer et pourra être lu par n'importe qui sans forcément avoir suivi toute l'histoire. Reste un énorme problème, c'est le problème de temporalité. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller dans Batman Inc. Comment le placer dans la continuité ? Et c'est ce qui me dérange le plus.
On pourrait faire un énorme débat. Après, je trouve que Morrison, il aurait pu très bien faire son truc dans son coin. Il a quand même fait l'effort de faire référence à beaucoup de choses qui se passent dans les New 52. Et il a quand même été cool sur le coup.
Ouais, mais prenons cet épisode. Mettons-le par rapport à l'épisode d'avant. Combien de temps s'est passé entre l'épisode 7 et l'épisode 8 ?
Ah bah, c'est dans la, 5 c'est minutes. Dans la continuité. Hein.
Or, dans l'épisode 7, nous voyons Jason Todd. Et il suffit de lire Red Hood pour comprendre que c'est censé se passer avant. Or, les conséquences de Death of the Family sont présentes.
Ouais, quoi. Ça, c'est vrai que c'est...
C'est là le problème. C'est, en fait, c'est vraiment ça qui me gêne, c'est qu'au niveau continuité, il y a un gros souci. Puisque Damian fait partie de Death of the Family, donc Death of the Family est censé se passer avant.
Enfin, ça c'est l'éternel problème de ce qu'on a toutes les semaines à travers tous les comics possibles et imaginables. Tu regardes chez Marvel, The Beast, il a toujours sa vieille tête dans plein de séries, alors que...
Ouais, mais c'est pas parce que Marvel fait une connerie que DC doit la répéter.
Mais tout le monde fait la même connerie sur toutes les séries possibles et imaginables. De toute façon, c'est impossible de faire correspondre 52 titres. C'est impossible. C'est juste...
DC avait quand même essayé de faire des efforts. Il y avait juste vraiment Batman Inc. qui posait problème.
Ils avaient tout remis à plat, mais...
Oui, mais ils essayaient de faire des efforts. Batman Inc. a toujours posé problème dans la continuité. Et effectivement, là, ça se prouve vrai encore une fois, quoi. Moi, c'est vraiment... À part ça, l'épisode, je le trouve très bon. Pour moi, c'est un gros bail, un épisode à avoir. En espérant que d'ici 2 mois, cette fin d'épisode ne soit pas gâchée par une... Bah, je vais pas le dire, parce que sinon, je risquerais de spoiler, même si c'est déjà très limite ce qu'on a dit depuis le départ. Oui. Mais en espérant que voilà, tout ça ne soit pas annulé d'ici 2 mois. Vos notes, justement, Bruno ?
Moi, c'était mon coup de cœur de la semaine, un bail.
Nono ?
Là, honnêtement, un check-it moins, voire un pass.
D'accord, Benny ?
Bah, moi, je vais être honnête, hein, pour moi, c'est médiocre, donc un pass.
Non, mais voilà, tous les avis sont bons à prendre, justement, pour les auditeurs. Regardez de quelle sensibilité vous êtes la plus proche, et vous saurez aussi si cet épisode est fait pour vous ou non. Tout simplement. On continue la partie DC avec une série que plus beaucoup de monde lise, plus beaucoup de monde ne lit, pardon, je peux conjuguer correctement. C'est le Red Lanterns numéro 17, Corwin.
Oui, alors c'est écrit par Peter Milligan et dessiné par Miguel Sepulveda. C'est censé être la 4e partie de Wrath of the First Lantern, sauf que je vais commencer, il y a un gros problème. C'est que ça se passe entre Rise of the Third Army et Wrath of the Fourth Lantern. Donc ça aurait peut-être été malin de le sortir un peu avant les autres titres Green Lantern.
Bah, ça aurait peut-être été malin d'arrêter de nous sortir 3 titres chaque semaine aussi. Enfin, avant, voilà, on avait un titre par semaine, et maintenant on a 3 titres pendant une semaine, et la semaine d'après on a le Red Lantern tout seul.
Voilà, et celui-là, enfin, chronologiquement par rapport à ce qui se passe, il aurait dû se placer avant. Alors, il n'y a pas beaucoup de répercussions dans les autres petites Green Lantern, mais quand même, un minimum de cohérence, ça aurait été le bienvenu.
C'est un petit peu normal, c'est la Lanterne Rouge en même temps.
Sachant que c'est le même éditeur qui gère les 4 en plus.
Bah oui. Donc voilà, donc ça commence par un coup de gueule, ça m'a un peu saoulé.
Bah, tu te dis que bientôt il y aura 5 séries, comment ils vont faire, quoi ?
Ah bah... On va pleurer, on renumérotera nous-mêmes, en fait.
Remettez les diamants... Enfin, je sais pas, mettez une bague, Superman avait son diamant. Mettez une bague, enfin un anneau avec le numéro à l'intérieur. Sur la cover, ça pourrait être joli, puis ce serait logique.
Mais enfin, là, c'est vraiment intitulé la 4e partie de Wrath of the First Lantern, mais quand tu lis l'histoire, ça se passe entre les deux. Enfin, je suis désolé, ça commence par l'attaque des Manhunters sur Oa. Pendant justement l'attaque de la Ford Army. Donc, voilà, tout est dit, quoi. La première lanterne n'est même pas encore libérée à ce moment-là.
Ouais, bah oui. Donc voilà. Donc, Milligan continue sur son histoire des Manhunters, quoi.
Voilà, bah, ça commence par ça. Et puis, on se rend compte que pour Atrocitus, cette attaque sur Oa, c'est une grosse diversion pour qu'il aille faire un tour autre part, sur la planète mère des Gardiens, qui s'appelle, je sais plus, Malthus, où il va dialoguer avec le spectre de Krona, et il y va pour une bonne raison, c'est récupérer le cœur où les émotions des gardiens ont été enfermées.
D'accord.
Voilà, j'en dis pas plus. Après, donc il est suivi par une cohorte de Manhunter, et puis l'histoire va rejoindre le crossover Wrath of the First Lantern. Bon,
bah, exprimé comme ça, moi, ça m'a l'air intéressant en tout cas.
C'est pas mal, c'est intéressant, c'est chouette. Mais voilà, moi, le fait que ça soit pas bien placé chronologiquement, déjà, ça m'a saoulé. Mais sinon, l'histoire est agréable à lire. Donc, pour moi, ça sera un check it plus.
Check it plus, ok. On termine la partie d'essai avec le 17e numéro d'Aquaman, qui est l'épilogue au crossover Throne of Atlantis que l'on avait eu donc dans les pages d'Aquaman et Justice League ces derniers mois. Cet épisode est scénarisé toujours par Geoff Johns avec Paul Pelletier au dessin, ancré par Sean Parsons. Paul Pelletier qui s'en sort franchement très très bien. Il n'y a que toi, Corwin, qui l'a lu avec moi, je crois.
Oui.
Enfin, je sais pas ce que tu en penses du dessin de Paul Pelletier, mais peu à peu, j'arrive à oublier Ivan Reis, quoi.
Bah pareil, c'est très bien dessiné, on retrouve même un peu c'est-à-dire, comment dire, plus ou moins l'ambiance que Ivan Reis avait mis en place. Ça, voilà, il n'y a pas de rupture au niveau de la du dessin, quoi. Ça reste sur la même voie.
Une faune marine en plus, enfin, il s'en sort vraiment à merveille avec toute la faune marine, je trouve, ce qui est quand même le minimum pour dessiner Aquaman. Mais là, vraiment, elle est vra... enfin, on a une double splash avec tout un tas d'animaux marins. Elle est somptueuse, cette
Elle est
page.
magnifique, hein, ce passage-là est waouh, quoi, c'est une peinture.
On va avoir donc les conséquences à Throne of Atlantis. Aquaman a repris sa place de roi d'Atlantis et va devoir faire avec les conséquences qu'ont eues cette guerre entre l'Atlantis, justement, le peuple Atlante et les humains, le fait d'avoir essayé de faire un tsunami sur Boston et sur New York, le fait d'avoir des armes atlantéennes qui se baladent un peu partout et qui sont récupérées par des pirates, qui se servent ensuite pour soit tuer des baleines alors que c'est interdit, ou justement faire de la piraterie, hein, comme on voit actuellement la piraterie qui a repris énormément de force, notamment au niveau des côtes africaines. C'est voilà, pour Aquaman, c'est vraiment un tournant. On est dans un numéro où il y a un petit peu d'action, mais il y a surtout beaucoup de conséquences qui sont posées et on va partir sur d'autres histoires. Moi, j'ai vraiment aimé ce numéro, bien écrit par Geoff Johns. Il y a tout ce qu'il faut. C'est ce que j'appelle le grand Geoff Johns, quelqu'un qui arrive à poser des histoires tout en faisant des conséquences à un événement passé. On repart sur autre chose et on voit qu'Aquaman est plus que jamais dans la merde après cet épisode.
Ouais, que dire de plus, c'est que moi, pour moi, c'était vraiment une bonne lecture, un changement de statu quo. On replante le décor, on fait avancer le personnage, on fait avancer aussi un peu sa famille, parce que Mera est restée sur le continent, donc on voit un petit peu comment ça se passe pour elle.
On nous présente des nouveaux personnages aussi, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, il y a des nouveaux personnages qui font leur apparition.
Oui, bah dans la garde rapprochée du roi d'Atlantis, tout
Notamment
simplement.
un personnage assez charismatique d'emblée.
Oui, je sais plus son nom, mais c'est un bon gros
Murk.
bourrin, quoi. Voilà. Rien que le nom, tout de suite, on peut s'imaginer à quoi on va avoir affaire.
Un bon nom de demi-orc, ça.
Après, il y a aussi un petit clin d'œil à ce qui va se passer ou qui se passe dans les pages de Justice League of America, puisque il y a une rencontre avec Amanda Waller.
Et j'ai tout de suite pensé à toi, Bruno.
Oui, voilà, la meuf qui va partout et dans tous les numéros.
Ouais, là, c'est Aquaman qui vient à elle, hein, précisant quand
Don
même.
d'ubiquité, non
Enfin,
d'ubiquité.
c'est elle qui l'a sonné, quoi.
Oui, elle
Voilà,
l'a sonné, mais c'est
après.
lui qui vient à elle quand même. C'est pas elle qui se déplace. Elle se déplace pas, elle, de toute façon, on vient la voir.
Elle aura du mal, hein. Faudrait qu'elle prenne une combinaison de plongée.
Mais c'est pour ça qu'elle est maigre, hein, c'est qu'elle arrête pas de courir partout pour aller partout.
Mais oui.
On avait dit pas le physique, Bruno.
Le grand problème des New 52. New 52 égale cure slim fast.
Voilà, c'est ça.
Donc, non, mais un très bon numéro. Voilà, on change le statu quo, le personnage évolue, ça avance. On se demande où ça va aller, cette situation. Comment il va s'en sortir avec ses problèmes sur Terre et dans la mer. Comment il va réussir à faire le pont entre les deux mondes. Très intéressant. Moi, j'irai voir la suite sans hésiter. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine.
Et je crois surtout qu'on se rend compte avec cet épisode de qui sont les vrais amis d'Aquaman. Et finalement, il lui en reste pas beaucoup.
Bah,
C'est les
les poissons.
poissons. Ouais, c'est ce que
Ben
j'allais
voilà.
dire.
Voilà, Aquaman est plus seul que jamais.
Même Findus, hein, comme c'est du cheval et puis du poisson.
De l'hippocampe.
C'est du cheval de mer, effectivement.
Ouais, voilà. Et il est un petit peu tout seul, quoi.
Pour moi, c'est un bail aussi, hein. Franchement, c'est avec ce genre d'épisode-là que Geoff Johns remonte dans mon estime. Donc, espérons qu'il continue, sur cette veine-là et pas sur ce qu'il avait pu nous faire précédemment, notamment dans Justice League. On va terminer l'émission, comme chaque semaine, avec le tour du côté...
Juste un truc, on n'en a pas parlé cette semaine, il y a toujours le fameux Channel 52, qui, en plus, pour l'occasion, spoil justement le gros cliff, enfin, le gros coup de théâtre de Batman Inc. Donc même là-dedans, en fait, ils en parlent.
Oui, effectivement, mais bon, je pense que c'était vraiment connu de tous, et que... Bon, je pense que, voilà, si tu n'as pas été acheter l'épisode, c'est que c'était une série qui t'intéressait pas au départ, donc... Bon, c'est bien de le préciser pour les gens qui veulent continuer à suivre l'univers Batman sans forcément acheter l'univers acheter la série Batman Inc. Ou continuer à suivre l'univers de DC, parce que je pense que si c'est bien géré, ça devrait avoir des répercussions partout.
Bon, si voilà. C'est bien géré.
Si c'est bien géré, bah, c'est toujours le même problème. C'est un si majuscule surtout, quoi, parce que espérons que.
De toute façon, on peut le dire, hein, Bruce Wayne a changé de sexe, voilà.
Bruce Wayne va au Brésil.
Ah, ça fait débat, hein.
Allez, donc le tour du côté des TPB pour terminer cette émission, et on commence par... alors, on l'a placé dans les TPB, mais ce n'en est pas un vraiment, c'est un graphic novel, c'est Ravine, qui sort chez... Bah, j'ai oublié d'ailleurs, Bruno.
C'est Image et Topco, en fait.
C'est Image et Topco, oui, voilà.
Et donc, Stéphane Sejic qui a écrit cette histoire avec l'aide de Ron Mars et qui a dessiné aussi. Il y a plus de 120 pages d'histoire. J'ai fait une review sur le site, je vous invite à la consulter. C'était vraiment une très très bonne lecture. Et,
J'en suis à la moitié de l'épisode. Je trouve ça très intéressant. Un univers heroic fantasy hyper bien posé, hyper fouillé. Et je vais finir le tome et. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est le numéro 1.
Pour 15 euros, bon, c'est du soft cover. J'aurais presque aimé du hard cover pour un bel objet comme ça. Mais...
Ah non, c'est bien, ça réduit le coût, quoi.
Mais ça réduit le coût, donc ça vaut le coup. C'est vraiment chouette.
Puisqu'à savoir que ce sera une série de graphic novels comme ça. Donc, c'est le numéro 1. C'est peut-être pas plus mal d'avoir un prix relativement abordable, une quinzaine d'euros, pour un truc qui va se continuer. Le prochain numéro était prévu pour quand, cet été, je crois?
Pour cet été, normalement.
Voilà, donc une quinzaine d'euros, enfin 14,99$, donc voilà, à peu près une quinzaine d'euros, normalement 12 si on voulait faire à peu près les calculs correctement, mais bon, comptons à peu près une quinzaine. On continue, alors cette semaine, on a énormément de vieux trucs qui ressortent de la réimpression aux États-Unis dans les TPB, c'est le Showcase Presents Justice League of America numéro 6. Alors les Showcase Presents, ce sont comme les Essentials chez Marvel, ce sont des bouquins d'environ 500 pages, noir et blanc, à relatif bas coût, puisque c'est $20. Ça reprend Justice League of America 107 à 132, donc les épisodes des années 70, écrits notamment par Len Wein. Voilà, c'est vraiment du vieux pour ceux qui ont envie de découvrir du Silver Age. On va retrouver notamment la JLA face à Felix Faust, Shaggy Man, Eclipso, Amazo, Injustice Society,
tout
et d'autres encore.
En voilà.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, si vous avez envie de lire du vieux Justice League à pas trop cher, c'est du noir et blanc, mais le dessin des années 70 s'y prête relativement bien, faut le reconnaître. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, $20. On a aussi une collection de rencontres entre Superman et Shazam, écrit notamment par Roy Thomas ou Gil Kane. On a dedans All New Collectors Edition C58, un truc qui devient assez introuvable, un assez gros volume de l'époque. On a aussi le DC Comics Presents 33 et 34, le numéro 49, ainsi que l'annual numéro 3. Que des rencontres entre Superman et Shazam, où généralement, ils se foutent sur la gueule. Les deux entités les plus puissantes de l'univers DC qui se tapent dessus. Toujours pareil, hein, de côté des années 70-80, pour ceux qui ont envie de lire du vieux. Passons chez Marvel maintenant. Vous pouvez intervenir hein, si ce sont des choses qui vous plaisent ou pas. Là, je suis en train de débiter tout seul.
Mais débite.
Ouais, mais non, quoi. Débite, mais pas que.
Je sais que la façon dont tu
le
dis.
C'était le mot proscrit normalement, bite. Hein.
Ouais, bah oui.
Je n'ai pas prononcé ce mot, j'ai prononcé un autre mot.
Je sais que la façon dont Nono le prononce, il y a toujours un sous-entendu.
De toute façon, il a dit débite. Oui, mais
Débite d'amarrage.
Voilà.
Je peux plus m'en sortir, moi.
T'as vu, tu voulais qu'on parle, alors. Du coup, maintenant.
Allez, on continue. C'est le Marvel Masterworks Captain Marvel volume 1 qui ressort. Donc, Marvel Masterworks, ce sont des éditions assez luxueuses de vieux comics Marvel. On a notamment le Marvel Super Heroes 12 et 13 ainsi que les 9 premiers épisodes de la série Captain Marvel le 1968. Tout pour découvrir le personnage dans sa première apparition, scénarisé par Roy Thomas avec des dessins de Gene Colan. Pour les avoir relus il n'y a pas longtemps, ça tenait vraiment la route et c'était vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qui sortait à l'époque. Je ne sais pas si l'un de vous les a lus, ces Captain Marvel originaux.
Non.
Rah. Continuons. La réaction pourrie. Continuons avec le Marvel Noir Wolverine and X-Men. Pour ceux qui les auraient ratés en français, ou qui voudraient les avoir en un seul et même volume, ça vaut 34,99$. C'est vrai, d'ailleurs, j'ai pas donné le prix du Marvel Masterworks. Le Marvel Masterworks Captain Marvel est à 24,99$.
Ça va.
Donc pour 35$, là, nous avons le Marvel Noir Wolverine and the X-Men qui reprend tous les titres Marvel Noir concernant les X-Men et Wolverine. On a donc la mini-série X-Men Noir, X-Men Noir Mark of Cain, la série Wolverine Noir et le one-shot Weapon X Noir. Tout ça collecté en un seul et même volume. Bah, pour ceux qui ne les trouveraient pas en VF, notamment, ou ceux qui voudraient les avoir en VO, en un seul et même volume. Continuons toujours dans les rééditions. Wolverine Gambit, écrit par Jeff Loeb, dessiné par Tim Sale. La mini-série où Gambit va enquêter sur un tueur un peu façon Jack l'Éventreur. Et d'après les marques sur les cadavres, il se pourrait que ce soit bien Wolverine qui soit le serial killer. Alors l'est-il vraiment ou pas? La réponse dans cette mini-série, c'était la mini-série Wolverine Gambit Victims. Quelqu'un
ça
s'en rappelle?
Ça me dit rien du tout. Je non, la non, découvre. Non,
ça
là.
Ça me dit rien, mais ça me.
Jeff Loeb et Tim Sale. Ouais,
je vais peut-être en profiter. Ouais.
C'était bah sorti dans les RCM chez Semic à l'époque.
Oula, la manière
ça s'appelait justement ça. Gambit Serval Victime.
Wouhou, on a l'impression, flip manœuvre d'un seul coup. C'était sorti dans les RCM à l'époque, je veux dire, avec les vestes en cuir, tout ça.
Ça devait lui manquer, Philippe, à nous avoir fait son imitation de Philippe.
Ouais, bah il était pas là en plus cette année dans la Nouvelle Star.
Une coproduction de Jeff Loeb et Tim Sale, un peu inférieure, c'est sûr, à Spider-Man Blue, Hulk Grey, Daredevil Yellow, tout ce qu'ils avaient fait comme ça chez Marvel, mais qui restait néanmoins une très bonne mini-série.
Oh, c'était sympa, avant leur passage chez DC ou après?
C'était après.
D'accord.
Attends. Oh putain, je sais plus maintenant.
Ah, ouais, c'était après, parce que là, c'est DC.
La question de fou, quoi.
Je sais plus, tiens, il faudrait vérifier. Je dirais que c'était entre les deux, en fait.
Eh bien, nous laisserons nos auditeurs nous donner la réponse.
Steve ne se mouille pas. C'était entre les deux, c'était attends, un petit peu avant,
je voudrais pas dire de bêtises, je crois que la mini-série doit dater de 94, quelque chose comme ça. Mais là, j'ai plus la date en tête, donc bon. Excusez-moi, hein, corrigez dans les commentaires si vous
parce
vous rappelez.
C'est très important de savoir ça.
Enfin, le dernier TPB de la semaine, c'est du Peter David, dessiné par Rich Buckler, quelque chose qui va faire plaisir à Bunny, puisque c'est Spider-Man Death of Jean the Wolf qui est ressorti cette semaine.
Bah oui, qui est encore ressorti, parce que j'ai l'impression que c'était bébé et on l'a eu 14 000 fois déjà.
Oui, mais peut-être qu'il se vend très bien, puisque c'est un new printing. Ça reprend les épisodes de Spectacular Spider-Man 107 à 110 et 134 à 136 pour 19,99$. Ouais, et j'ai pas donné le prix.
On l'a pas eu en best-of chez Panini il y a pas très longtemps.
C'est sorti en français il y a pas longtemps.
Ah bah peut-être. Ouais, ah bah c'est
6 mois à peu près.
J'essaye généralement de choisir des choses qui ne sont pas sorties en français, c'est une erreur de ma part, autant pour moi. Bon, enfin, en tout cas, pour ceux qui les voudraient, j'avais pas donné le prix du X-Men Wolverine Gambit, c'est $15.
Mais attendez, je suis pas certain qu'on ait eu les deux sagas en français. C'était peut-être juste la première avec la mort de Jean DeWolf et puis la seconde avec la disparition du Rédempteur, puisque c'est la revanche du Rédempteur. Je suis pas certain qu'on l'ait eu republié celle-là en français.
Voilà, en tout cas, c'est tout pour la sélection TPB de cette semaine. Beaucoup de vieilles sorties, comme quoi ça marche aussi hein, la réédition. Même aux États-Unis, il n'y a pas qu'en France qu'on s'en tape, rassurez-vous. Si jamais vous voulez vous procurer certains TPB, je vous renvoie vers vos comic shops ou vers vos sites de commandes en ligne.
On avait l'impression que tu t'en foutais justement. Tu sais, tu disais, il n'y a pas qu'en France qu'on s'en tape des rééditions.
On se retrouve donc la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une autre série de reviews, en espérant que la semaine prochaine soit plus calme, hein, quoique c'est le début du mois de mars. Donc, ces dernières semaines ont été vraiment intenses en termes de lecture et j'ai bien l'impression que c'est parti comme ça pour durer un bon moment. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et bien sûr retrouver tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes. À la semaine prochaine.
Voltoum.
Salut les gens.
Allez, salut, il était temps.